Hello les amis et bienvenue dans l'émission Osons les difficultés, l'émission où on parle audace et résilience sans aucun tabou. On a tourné 3 émissions en 3 mois, aujourd'hui c'est la 4e et j'ai la chance de recevoir aujourd'hui un entrepreneur qui m'inspire beaucoup, Samuel Schwartz. Comment vas-tu Samuel ?
Eh ben, je vais très bien, je te remercie Dorian, merci déjà pour l'invitation, très honoré d'être ici avec toi et de partager un petit bout de mon histoire.
Eh bien écoute, on va partager ça ensemble. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, qui écoutent cette émission pour la première fois, moi je suis Dorian Solaire, j'ai une mission, c'est d'accompagner les gens et les entreprises à oser faire ce qu'ils n'ont jamais fait. Alors du coup aujourd'hui on va parler audace et résilience. Est-ce que avant ça tu peux te présenter pour que les gens qui écoutent cette émission sachent qui tu es ?
Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Samuel Schwartz. J'ai 39 ans depuis quelques jours. Team Bélier, je suis marié et l'heureux papa d'une petite fille de 8 ans. Et professionnellement parlant, je suis entrepreneur. J'ai commencé à entreprendre assez jeune puisque ma première société, je l'ai créée à l'âge de 23 ans. Depuis, j'ai créé plusieurs autres sociétés. Je suis un petit peu connu, marketingment parlant, pour le mec aux 15 sociétés en 15 ans. Je suis entrepreneur et heureux chef de famille.
Trop cool. Bah, de toute façon, on va avoir la chance d'en parler. Tu as plein de belles choses à nous dire. Alors, il y a une question qui ouvre cette émission, qui ouvre toutes les émissions. C'est la suivante, c'est de te demander, toi Samuel, quelle a été la difficulté dans ta vie qui t'a le plus impacté émotionnellement parlant ?
Ouais. Alors forcément, les difficultés quand tu es entrepreneur, il y en a beaucoup, parce que c'est pas du tout un long fleuve tranquille. Et finalement, tu te rends compte que plus tu t'exposes, c'est-à-dire plus tu fais de choses, et au final, ben plus il peut t'arriver une difficulté. Et moi, forcément, là, je pense directement à une des difficultés que j'ai pu avoir. C'était il y a quelques années, en fait, quand j'avais eu la possibilité de racheter un bâtiment. Donc de racheter un bâtiment où j'ai l'exploitation de quelques-unes de mes sociétés. Et en fait, malheureusement, ce bâtiment a pris feu. Et si tu veux, ouais, c'était déjà très très dur, vraiment, parce que pour moi, déjà, c'était exceptionnel d'arriver à acheter ce bâtiment, parce que c'était un gros projet, tu vois, pour moi, c'était des gros chiffres, etc. C'était exceptionnel. J'ai réussi à acheter ce bâtiment, bon, l'histoire est très très longue. Mais en fait, si tu veux, le locataire du rez-de-chaussée m'appelle le 31 décembre et me dit « Samuel, on a un petit souci, mais t'inquiète. » Je dis « C'est quoi le petit souci ?» Il me dit « Bah, il y a eu un petit incendie. » Je dis « Comment ça, un petit incendie ? Où ça ?» Ben, il me dit « Oui, dans le magasin, tout ça. » Lui, il vendait des batteries. Et donc là, ni une ni deux, j'étais en vacances, mais évidemment, je débarque devant mon immeuble. Et là, en fait, je vois le rez-de-chaussée, petit incendie, hein. C'est délirant. Les clims, là, que tu vois, là, elles étaient fondues par terre comme une bougie. Wow. En fait, c'est un immeuble avec un étage. Le rez-de-chaussée, donc, détruit par les flammes. Et donc, je monte à l'étage. Et là, je me dis, OK, c'est bon. Tu sais, tu regardes très vite fait. Je vois les pompiers qui avaient cassé les portes, cassé les trucs pour rentrer, tu sais. Et puis je me dis non, c'est bon, tu vois, à l'étage, il n'y a rien, tu vois.
Un peu genre le déni, quoi.
Non, mais ouais, non, c'est que tu sais, j'aurais très vite fait, et je suis tellement dans le truc et tout ça, j'ai mon cœur qui bat à 10 000 à l'heure et tout. Et je me dis, ah, c'est bon, à l'étage, il n'y a rien, tu vois. Et en fait, je m'assois en bureau, et il y avait un clavier et une souris. Je déplace la souris, et là, donc c'est un bureau en bois, clair, et là, en fait, je me rends compte, j'ai déplacé la souris. Mais que il y a le spectre de la souris.
Ah ouais.
Et en fait, je comprends que dans un incendie, parce que je suis néophyte, je ne sais pas ce que c'est un incendie, j'en ai pas connu auparavant. Je comprends qu'en fait, il n'y a pas que les flammes. En fait, il y a les suies.
Ah ouais.
Et en fait, il y a des suies partout, sur tout. Et du coup, voilà, c'était une grande difficulté, mais la plus grosse difficulté n'a pas été liée finalement à l'incendie. Mais à l'après-incendie.
Ah ouais. Parce que là, du coup, donc là, tu vis ça il y a combien de temps ?
C'était fin 2019.
Ok, donc c'est quand même pas très très vieux.
Non, il y a 6 ans.
Donc tu vis ça. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là émotionnellement ? Quand tu dis, ok, c'est pas l'incendie, mais c'est ce qui se passe après. Qu'est-ce que tu ressens émotionnellement ?
Là, sur le moment, si tu veux, j'ai limite du mal à ressentir mes émotions, parce que forcément, en fait, je suis tellement dans le truc, je me dis, ok, il faut gérer ci, il faut gérer ça, il faut trouver des solutions, machin, là, là. Donc je pense que dans ces moments-là, on n'apprend pas à recueillir aussi ces émotions.
T'es dans le mental, quoi, t'es dans le truc, vas-y, il faut que ça se règle.
Exactement. Ouais. Moi, je suis beaucoup dans le mental et dans l'action, et là, je me suis dit, ok, go, 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 machin, etc. Avec le recul, vraiment, ça m'a chamboulé énormément, mais en fait, ce qui m'a chamboulé le plus, c'est l'année qui va suivre, où il va avoir, je n'ai pas compté, mais franchement, je pourrais limite leur trouver des dizaines d'expertises avec 3, 4, 5 experts différents, parce qu'il y a beaucoup de parties prenantes. Moi, j'ai plein de casquettes, parce que du coup, je suis propriétaire, mais en même temps, je suis exploitant, en même temps, bref, je suis en SCI, enfin, il y a plein de sujets. Donc, même moi, j'ai 3 assurances, puis après, j'ai 2 locataires à l'arrière qui eux-mêmes ont des assurances et tout. Et en fait, il y a beaucoup de réunions d'expertise. Et c'est là où émotionnellement c'était extrêmement compliqué parce que tu te rends compte que les experts c'est réel, je l'ai vécu de l'intérieur. Leur seul objectif c'est d'indemniser le moins possible.
Ouais.
Et en fait si tu veux quand moi si tu veux c'est l'histoire de ma vie, avoir acheté ce bâtiment et tout pour moi c'était exceptionnel.
C'était l'aboutissement de quelque chose, d'un fruit de travail.
C'est ça, tu vois, on a pas parlé vite fait quand j'ai fait ma présentation, je te dis je suis entrepreneur, mais la réalité c'est que quand j'ai lancé ma première entreprise j'ai vendu ma voiture et j'ai acheté aux enchères une ambulance et quelques outils. J'ai lancé ma première boîte de rénovation comme ça.
Énorme.
Donc je démarre vraiment de rien, rien du tout. Maintenant, j'ai connu quelques petites réussites, mais la réalité, c'est que quand tu n'as rien et que tu arrives à faire des petites choses, tu essaies de les préserver et surtout d'en être content.
Tu en connais la valeur en tout cas.
Tu en connais la valeur. Et en fait, pour moi, cet immeuble, en effet, c'était quand même un peu l'aboutissement, entre autres, de beaucoup d'années de travail. Et au final, détruit comme ça. Mais comme je te dis, le pire, ce qui m'a impacté, c'est vraiment pas l'incendie. C'est les suites de l'incendie et de voir en fait à quel point des gens peuvent finalement limite te pousser.
Ouais.
Moi, j'étais à la limite du burn-out, mais vraiment limite. Et je me rappelle d'une expertise où je dis aux experts, mais en fait, vous êtes des fous. J'ai dit, mais vous vous rendez compte? Moi, je pense que psychologiquement, je suis assez costaud, mais en fait, vous faites principalement, je ne sais pas le pourcentage, mais il y a beaucoup de gens qui pourraient être extrêmement impactés par ça. Même moi, je me sens limite sur le fil, alors que j'ai l'habitude de gérer.
Alors que t'es solide.
Voilà. Et que tu vois, je vais toujours être orienté solution. Je ne vais jamais m'apitoyer sur mon sort. Je vais toujours être là en mode, ok, bon, c'est pas grave, on va trouver. Qu'est-ce qu'on va faire? Toujours, tu vois, l'énergie, énormément d'énergie. Je suis connu pour ça, pour avoir une énergie féroce. Mais du coup, je me dis, voilà, et ça, émotionnellement, je t'avoue que ça m'a vraiment, vraiment coûté. Pourtant, j'ai eu plein d'autres choses dans ma carrière professionnelle, parce que comme dit, je m'explose pas mal, forcément, en ayant fait tout ce que j'ai fait.
Et quand tu dis que ça t'a coûté émotionnellement, du coup, tu dis qu'au départ, t'es un peu bloqué, genre t'es en mode action, donc tu ressens pas les émotions, mais à ce moment-là, c'est quoi? C'est de la colère que t'as?
Alors, j'ai plusieurs sentiments. Évidemment, j'ai de la colère, parce que je me dis, non, mais en fait, ils essaient de me prendre pour un... ils se foutent de ma gueule. Et en même temps, j'ai de la colère, j'ai un peu de tristesse aussi.
Ouais, parce que t'as perdu quelque chose.
Ouais, c'est ça, tu vois. Et je me dis, putain, c'est pas possible. Donc, c'est un mix, un savant mélange. Voilà. Mais c'était vraiment une période difficile. Je sais pas si c'était la période la plus difficile, parce qu'en 2016, j'ai eu une sacrée période extrêmement difficile aussi. Mais celle-là était très dure.
Et comment tu t'en sors, même si tu vas pas nous refaire toute l'histoire, parce que voilà, l'idée là, c'est vraiment que les gens aient les briques et surtout les, on va dire peut-être les quelques étapes qui ont fait que tu sens que ça bascule à un moment. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à te sortir de cette situation, déjà émotionnellement, premièrement, et après peut-être sur l'aspect plus business, financièrement et voilà, du point de vue business, quoi.
Pour moi, en tout cas, c'est comme ça, c'est lié. C'est quand j'arrive à m'en sortir de la situation de manière pragmatique, je sais pas, j'ai obtenu par exemple l'indemnisation, etc. Bah forcément, de fait, conséquence, mes émotions et tout, ma colère va se relâcher, ma tristesse va se relâcher, etc. En tout cas, moi je fonctionne comme ça.
Donc d'abord, tu trouves les solutions et après, ça te permet d'être plus à l'écoute de tes émotions.
C'est ça.
Okay.
Et en même temps, je reste hyper positif. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me dis, tu sais, je vais pas rentrer dans ces trucs bullshit, mais assez réel, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. La finalité, c'est que tu décides de regarder le niveau. Tu vois ce que je veux dire? Les choses sont... Et puis, maintenant, j'ai quand même assez d'expérience pour me dire qu'en toute chose, malheur est bon. Et au final, je me rends compte que à chaque fois que j'ai pu traverser des moments difficiles, j'en ai tiré des forces. Et à la fin, c'était limite mieux. Parce que tu vois, même là où c'était extrêmement dur, cet épisode de l'incendie, si maintenant je te le reprends, je me dis ouais, mais ça m'a permis de faire un restaurant.
Bien sûr, mais on se dit tout ça.
Ça m'a permis de créer mon magasin là-bas, parce que du coup, le mec est parti avec ses batteries. Je me suis dit ok, je vais me faire un restaurant et du coup machin. Bref, tu vois, donc on peut toujours trouver du positif. Et pour répondre à ta question de base, comment je m'en suis sorti ? Donc les émotions, je m'en suis sorti grâce au fait que, d'un point de vue pragmatique,
il y avait des solutions.
Voilà, les solutions se sont trouvées. Et comment elles se sont trouvées ? Parce que je n'ai rien lâché. C'est-à-dire, en fait, j'ai regardé les experts droit dans les yeux et je leur ai dit « Non mais les gars, je crois que vous n'avez pas compris.
Ouais.
En fait, moi, je ne vais jamais lâcher. » Donc je vous explique. C'est un bras de fer qu'on est en train d'entamer, visiblement. Je n'avais pas compris que c'était comme ça. On me l'avait dit que les assurances, c'est facile tant que c'est toi qui payes, mais quand c'est elle, c'est plus compliqué. J'ai dit, mais là, en fait, vous n'avez pas compris. Vous êtes tombé sur un os. Et du coup, moi, donc, c'est mon métier, entre autres, de faire des travaux. Donc, eux, ils avaient rédigé une indemnisation absolument minable. Et moi, j'avais pris soin de faire un devis détaillé. Je me rappelle, c'était 816 lignes de « je fais ci, je fais ça, je fais ci ». Et en fait, aux réunions d'expertise, je dis « regardez, c'est facile, vous me proposez un truc, moi je ne suis pas d'accord, regardez ma copie ». Et donc, on a commencé à prendre le devis et ils ont pointé chaque ligne. Et chaque ligne, on a discuté.
Ouais.
Et en fait, les 5 premières lignes nous ont pris 3h30.
Wow.
Sachant qu'il y avait 816 lignes, si tu veux, les mecs, je voyais, ils n'en pouvaient plus, mais moi, je ne lâchais rien. Et au final, sur les 5 lignes, je n'avais pas lâché un euro, ils étaient OK. Alors qu'à la base, ils étaient totalement contre.
Ouais.
Et à un moment donné, il y a un des experts qui parle à l'autre, qui chuchote dans l'oreille, qui me dit « Est-ce qu'on peut partir 5 minutes pour parler ?» J'ai dit « Oui, prenez le temps que vous voulez, de toute façon, moi je suis là. » Et donc ils sont partis, ils reviennent 10 minutes après, ils me disent « Bon, vous n'avez pas lâché. » J'ai dit « Non, ouais. Je ne vais rien lâcher. » Parce que vous, c'est votre job, mais moi, c'est ma life là.
Ouais, putain, c'est fort.
Et les mecs, ils m'ont dit « Ah ouais, ah ouais. » J'ai dit « Non, mais moi, il n'y a pas de problème. On a mis 3h30 pour faire ces 5 lignes. Il nous reste 811 lignes. C'est vous qui voyez. Mais moi, en fait, ce que je vous ai mis dedans, je sais que c'est fondé, etc. Et il me dit, ouais, mais quand même, nous, notre boulot, en gros, c'est de réduire le...
Bah oui.
T'imagines ?
Oui, bah oui,
et il me dit, donnez-nous quelque chose. Non, mais t'imagines ? Le mec me dit, en gros, donnez-nous
quelque chose. Oui, ça devient une négociation comme si tu vendais un produit.
Et
bien,
je lui dis, ça tombe bien. Écoutez, je vais être honnête. Les dernières lignes que j'ai mises, j'ai bombardé. Genre approvisionnement de chantier, nettoyage, machin. J'ai bombardé parce que franchement, avec tout le temps que vous me faites perdre, franchement, là. Donc, si vous voulez, on enlève les dernières lignes de la fin. Donc, il va à la fin, il regarde les lignes. Et on a enlevé des lignes, ils étaient contents.
Ouais. Et tu as réussi à résoudre le truc comme ça ?
Ah oui, j'ai eu 3 fois l'indemnisation qu'ils voulaient me proposer.
C'est cool. Enfin, c'est cool. En tout cas, c'est bien que tu aies rien lâché. Et ça montre que finalement, ouais. si t'as pas la volonté de vouloir aller au bout des choses, il y a des moments où ça ne peut pas marcher. Et je pense que d'ailleurs, c'est là où ta force à toi, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que tu pars de zéro en termes d'entrepreneuriat. En tout cas, tu as tout construit toi-même. Et pour aller même plus loin dans le storytelling, parce que je te suis au quotidien, tu n'as même pas fait de grandes études autre.
Même t'as pas fait d'études tout court.
T'as pas fait d'études tout court. Et malgré ça, aujourd'hui, tu as 15 sociétés et tu lances des projets qui marchent, qui cartonnent et t'aides les autres à cartonner. Donc, c'est juste incroyable. Donc, bravo à toi. Bravo à toi. En tout cas, sachez une chose, les amis qui nous écoutaient là à la radio, les auditeurs, ces sujets-là, audace, résilience, c'est des sujets qui, moi, me parlent d'Orion Solaire. Et j'en fais des conférences dans des entreprises où je parle justement de ces sujets-là, de dépassement de soi, de confiance en soi et de comment on peut arriver à se développer en partant de difficultés et en partant de zéro. Dernière question, puisqu'on arrive tout doucement sur la fin de cette première partie.
Ouais.
Si tu devais résumer cette expérience au travers d'un apprentissage, quel serait cet apprentissage ? Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience ?
Donc l'expérience, on parle de l'incendie.
Ouais, de ce que tu viens de nous partager.
Bof, j'ai appris, disons que j'ai eu confirmation de pas mal de choses, que si tu veux, quand tu veux quelque chose, bah, il faut aller le chercher, parce que personne ne va te le donner.
Ouais.
Que si tu veux, il faut toujours y croire. Parce que je t'avoue qu'à un moment donné, j'avais envie de me dire,
t'envoyer chier.
Ouais. Je prends ce qui me jette, en fait, tu vois, et puis go, tu vois.
Ouais.
Non, je pense que ça, c'est le deuxième point. Il faut toujours y croire, faut rien lâcher, mais il faut toujours y croire. Parce que si tu n'y crois plus, pas forcément, tu vas commencer à lâcher. Et après, il faut toujours, je pense, avoir, en fait, une vision de se dire, OK, c'est une période difficile. Mais je vais arriver, je vais en tirer une force. Et en fait, quand tu penses comme ça, Je pense que si tu veux, ça peut t'aider. Voilà. Et si tu arrives à analyser des situations de ton passé, qu'au départ, tu te dis, ok, c'était une situation extrêmement difficile, mais si tu l'analyses après, tu te dis, ok, mais j'en ai tiré tel et tel et tel et tel bénéfice. En fait, fort de ce constat, quand tu revis une situation difficile, tu peux dire, mais c'est pas grave, je vais me rappeler de ça. Et tu vois, la dernière fois, c'était dur.
Mais je l'ai fait.
Et je l'ai fait. Et donc là, ok, on dit en gros, merci pour les roses, merci pour les épines. Quand tu veux ça, tu vois, ben c'est peut-être le chemin que tu dois traverser. Sinon, ben, tu ne fais rien et c'est sûr qu'il t'arrivera rien, quoi.
Moi, je kiffe ce que tu es en train de dire. Je dis souvent deux choses pour synthétiser, mais je dis toujours que quand quelqu'un ne te donne pas ce que tu veux ou que la vie ne te donne pas, ça ne vient pas à toi, prends-le par tes propres moyens, donc va le chercher. Et la deuxième chose, c'est exactement ce que tu es en train de dire, c'est que souvent, pour comprendre que les difficultés peuvent être bénéfiques, il faut en vivre pour t'en rendre compte après.
C'est ça.
Et en fait, je trouve que le niveau d'après, en termes de mindset, c'est de se dire, je suis en train de le vivre, et qu'est-ce que ça m'apporte là, maintenant.
Exactement.
Et donc, du coup, je trouve que ça accélère le processus de résilience.
Exactement.
Et donc, je trouve ça très, très chouette.
Moi, c'est ce que je dis, on dit, toute chose, malheur est bon. Aujourd'hui, honnêtement, j'essaye des fois même de me projeter, je fais l'exercice, je me dis, ok, là, quel est le pire truc qui pourrait m'arriver? Bon, hors truc de santé et tout, évidemment, tu vois, où t'es vraiment dans les trucs. Mais je parle professionnellement, tu vois. Par exemple, ton meilleur élément s'en va, enfin, je sais pas, tu vois, un truc énorme, tu vois. Bah, mais du coup, j'apprends à me projeter, à relativiser le truc, tu vois ce que je veux dire?
Bah, c'est hyper important.
Ouais.
Bah, et c'est de la préparation mentale.
Tout à fait. Et puis, de toute façon, comme dans toute, entre guillemets, pathologie, ce qui est important, c'est l'exposition. Plus ceux qui nous écoutent, plus vous allez vous exposer, plus vous allez vous mettre dans des situations peut-être des fois inconfortables où ça ne va pas être évident, etc. Plus vous allez apprendre à les gérer, apprendre à trouver des solutions, apprendre à vous en sortir. Et quand ensuite vous aurez géré la situation, ça va vous renforcer pour la fois d'après et vous pourrez aller finalement à l'étape d'après.
Exactement. La résilience et l'audace sont un muscle.
Voilà, exactement.
On clôture cette jolie première partie et on revient dans 3 minutes pour la deuxième partie où on va parler audace.
Allez, magnifique.
Bon retour parmi nous pour cette deuxième partie de l'émission Osons les difficultés, l'émission où on parle audace et résilience sans aucun tabou. Alors pour ceux qui ont raté la première partie, je suis aujourd'hui avec Samuel Schwartz, un entrepreneur incroyable, 15 sociétés en 15 ans, en tout cas on le connaît pour ça. Il nous a parlé dans la première partie d'émission de résilience, de comment il avait réussi à transformer un événement qui avait été difficile pour lui du point de vue entrepreneurial en quelque chose de positif, en tout cas en quelque chose de constructif. Et donc là, dans cette deuxième partie, on va parler audace. Alors dans la première, en première partie d'émission, je t'ai demandé, Samuel, quelle a été la difficulté qui t'avait le plus marqué. Là maintenant, je vais te demander, quel est le truc le plus audacieux que tu aies fait dans ta vie?
Alors là, je pense à un truc forcément qui a marqué un peu le début de ma carrière professionnelle. Mais quand je dis le début, c'est le tout début. Donc tu as dit précédemment, tu as lâché l'info hein, que j'avais pas eu... Enfin, j'avais pas de diplôme, j'avais pas fait de grandes études. Tu m'étonnes, je n'ai même pas eu mon baccalauréat. Bon, okay. En fait, les vrais savent que je ne l'ai pas vraiment raté. Je suis allé à 3 épreuves sur 8 ou 10, donc forcément, je ne me suis pas donné toutes mes chances. Mais bon, bref, passons. Et moi, je suis fils d'ouvrier du bâtiment et mon père m'avait dit, fais tout ce que tu veux sauf du bâtiment. Sauf qu'en fait, malgré lui, il m'avait transmis en fait, sa passion, son savoir, plein de choses. Et naturellement, à 18 ans et 2 jours, je me dis, ok, bah, moi, je vais partir au Luxembourg parce que j'ai vu que là-bas, on pouvait gagner un peu plus d'argent. Et je vais aller travailler forcément dans le bâtiment. Et me voilà parti au Luxembourg, etc. Pour la petite anecdote, j'avais mon permis. J'ai eu le jour de mes 18 ans. J'avais une petite BX marron. Donc, je ne sais pas si vous avez la ref. Elle monte, elle descend. Bref, c'était ouf. Je pars arriver là-bas et je me dis, ok, bah maintenant, il faut trouver un boulot, tu vois. Donc, comment trouver un boulot? J'ai 18 ans, j'ai 3 poils au menton. Voilà, comment faire? Et là, j'ai fait preuve d'audace. Et donc, je suis allé voir une cinquantaine d'agences d'intérim, d'accord? Et en fait, si tu veux, je me suis dit, ok, moi, je vais travailler dans le bâtiment, mais je ne veux pas faire manœuvre. Dans la mesure où, si tu veux, j'avais bossé toutes les vacances scolaires avec mon père, et même dès que je pouvais, j'avais
donc
pas vraiment...
Donc, tu connaissais déjà.
Ouais, j'avais pas de petite voiture, je perçais des trous avec une chignole, etc. Et je me suis dit, vas-y, moi, j'ai toujours eu ce truc, l'organisation, la planification, les actions à être en place et tout. Moi, tu sais quoi? Il faut que je sois chef d'équipe, tu vois.
À 18 ans.
18 ans. Et donc là, j'arrive et tout, tu vois, et je fais les agences d'intérêt, mais je dis bonjour, voilà, je suis chef d'équipe. je viens postuler au poste de chef d'équipe, tout ça. Et en fait, si tu veux, bah, inutile de te dire que... Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 18 ans, je faisais 18 ans. Tu vois ce que je veux dire? J'essayais de me laisser pousser la barbe.
Oui, c'est pas comme si il y en a qui ont la barbe et
oui,
tout.
Voilà. Et donc, forcément, les gens me disaient, non, mais attendez, je comprends pas. Et donc, au fur et à mesure des agences d'intérim, les premières vraiment m'ont dégagé. Et au fur et à mesure, en fait, je peaufinais mon discours. Voilà. Et à la fin, je disais, mais non, attendez. Rien à voir, moi je suis comme Obélix, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit et je travaillais mon bagou, je travaillais
le storytelling en fait.
Ouais, le storytelling, je travaillais la manière d'eux et après j'ai ajouté une chose, je travaillais mon culot. Je dis, mais attendez, je me rappelle, je suis passé une fois et je suis revenu 10 jours après parce que je ne trouvais pas et je dis, regardez, je suis venu il y a 10 jours, on a déjà parlé, vous aviez personne, là vous avez toujours personne, donc vous préférez quoi? Vous préférez avoir personne, un poste vacant, plutôt que moi, qui suis là, qui suis motivé, qui revient. Et vous savez quoi? Je vous fais une semaine gratos. La meuf me dit, ah bon, non, mais c'est pas possible, gratos. Mais quoi, c'est pas possible? Moi, je suis là, je suis motivé, je veux travailler. Donc, grosse audace. La nana me dit, vous êtes vraiment fou. J'ai dit, bah, écoutez, moi, j'en veux. Elle me dit, ok, vous commencez demain. Et là, je me dis, ok, trop bien, chef d'équipe maçonnerie, tu vois, tranquillou biloute. Je vais arriver sur mon truc, d'arriver le chantier, etc. J'avais vu que c'était Tralux, filiale de Mathieu Hébard, machin. Bon, bref, je savais pas de quoi on allait parler, en fait. Et là, elle me dit grue numéro 26. Elle me dit grue numéro 26. Et en fait, j'arrive sur un bête de chantier, des grues de partout. Je me dis, non, mais c'est délirant, tu vois.
Mais là, je trouve ça trop cool parce que, non, mais dans ce que tu racontes, tu vois, je vois beaucoup de gens au quotidien, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou même dans la vie quotidienne, qui se disent, ouais, mais il faut vraiment être 100% prêt pour se lancer,
ouais.
Tu dois le voir.
Ah ouais. Bah oui, moi, je vois, c'est mon quotidien.
Et pour moi, tu vois, le perfectionnisme, c'est pour ça que je dis le perfectionnisme, entre guillemets, c'est le grand ami de la procrastination. Parce que, en fait, c'est un peu l'excuse de dire, ouais, je suis pas prêt, j'y vais pas.
Ouais.
Alors que là, dans ce que tu expliques, c'est, en gros, allez, j'ai une compétence, je sais que je suis bon pour ça, planifier, organiser, j'y vais au culot, je développe mon discours, mon storytelling, j'obtiens quelque chose, mais je sais pas comment je vais le faire. mais je sais, j'ai confiance en ma capacité de m'adapter.
Exactement.
Et je trouve que c'est, l'audace, c'est aussi ça, c'est développer sa capacité à s'adapter. Pas se dire que c'est parfait, qu'on peut y aller, que je suis 100% prêt. C'est, je pense que j'ai un bout du chemin, et puis le reste, je vais le trouver en route, quoi.
Exactement. Après, comme je te dis, je m'étais dit, ok mec, t'as pas le choix, en fait. Je voulais pas arriver, il n'y a pas de sous-métier, mais je voulais pas être manœuvre dans le bâtiment, apporter un sac de ciment d'un point A à un point B, alors que je savais, je l'avais fait plein de fois, mais je savais que j'apportais beaucoup plus. Mon père, quand on me disait, quand est-ce que tu vas finir le chantier, il disait, ouais, ce sera fini quand ce sera fini. Ouais. Je dis, mais non, quand même, attends, lundi on va ferrailler, mardi on va couler, mercredi on va poser les rigs, jeudi le linteau, et vendredi on mettra la porte, ce sera fini. Tu vois, je faisais un truc millimétré, moi. Je savais que j'avais cette capacité d'organiser, de driver et tout, donc j'y suis allé au culot. Moi, c'était pas facile, hein, parce qu'après, j'étais très mal reçu. T'imagines, quand tu dois gérer des gens de 40, 50 ans, ouais. Mais bon, c'est un autre sujet.
Oui.
Mais au final, ça s'est très bien passé, enfin, très bien fini.
Et là, du coup, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à un jeune là, de 18 ans qui a envie de tenter quelque chose d'audacieux? Pour toi, c'est quoi la recette de l'audace?
Un peu comme tout à l'heure, déjà, c'est d'y croire, tu vois. Parce que si tu crois pas que c'est possible...
Ouais, si t'es pas convaincu toi-même...
En fait, si tu crois pas que c'est possible, c'est mort. Moi, je vois beaucoup de gens, des jeunes, des moins jeunes, hein, attention, beaucoup de gens se mettent beaucoup de barrières, beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de « Ah ouais, non, mais ça, ah mais non, ça, c'est pas possible, ah mais ça, c'est pour les autres, ah mais je suis pas prêt, ou autre. » Beaucoup, beaucoup, beaucoup de barrières. Et en fait, moi, ce que je dis, quand je peux accompagner même des entrepreneurs qui sont chevronnés, qui font déjà beaucoup de choses, ils ont aussi ces croyances-là.
On les a tous. Hein,
on les a tous. Donc, je dis ça, moi, je dis juste imagine.
Ouais. Comment ça serait ?
Juste imagine que ce soit possible, tu vois.
Ouais.
Parce que, ok, d'accord. Je dis pas qu'il faut être kamikaze, foncer sans penser au truc. Ok, c'est bien de se projeter tout, mais... Maintenant, on arrête un petit peu la négativité, on arrête de se mettre des bâtons dans les roues, on arrête de voir que le point noir sur le mur blanc et de considérer que le mur est noir. On prend un peu de recul, on voit que le mur, il est blanc, il n'est pas noir, même s'il y a ce point noir. OK. Donc maintenant, juste imagine que ce soit possible. Voilà. Et donc, quand tu imagines que c'est possible, tu peux visualiser. Et moi, je trouve que le pouvoir de la visualisation, de l'intention, c'est merveilleux, tu vois. Et tu peux faire des grandes choses avec ça. Et après, tu peux y croire, mettre en place et réaliser. Puis après, ça te conforte.
Et dans ce que tu dis, je trouve qu'il y a un sujet qui est important, c'est pour y croire, c'est aussi entoure-toi de gens qui croient.
Aussi.
Parce que je trouve que c'est hyper pertinent de se dire, ouais, tu sais, j'avais vu des études là-dessus où il y a des femmes dans un pays, tu vois, un peu où les femmes n'ont pas trop leur place, tu vois, en tant que professionnelles. En fait, ils prennent un groupe de femmes et en gros, il y a deux groupes de femmes. Il y a celles, tu vois, qui sont un peu négatives, qui ne croient pas en leur chance de devenir docteur. Tu mets une femme là-dedans, mais il y a 90% des femmes qui n'atteignent pas leur objectif.
Et oui.
Et tu prends un autre groupe et tu mets une femme dans un groupe de femmes qui ont réussi à faire ce qu'elle veut faire, ce qu'elle projette de faire, mais la femme, il y en a 8 sur 10 qui deviennent médecins. Tu vois, donc en gros, l'endroit dans lequel tu baignes, finalement, détermine en grande partie ce que tu vas devenir.
Nous sommes la moyenne des gens que nous fréquentons, c'est plus à déterminer.
C'est bateau, tu vois.
C'est
comme phrase,
mais bateau, c'est mais vrai. C'est vrai. Et aussi, je pense que du coup, il faut avoir ce discernement.
Complètement, complètement. Donc, première dans ta mixture de l'audace, premier point, donc, c'est le fait d'y croire. D'y croire, bon, on a mis un peu l'entourage dedans. Et si tu en avais un troisième pour les audacieux? Pour les gens qui ont envie d'être audacieux.
Y croire, l'entourage et surtout, passer à l'action. Parce qu'en fait, si tu veux,
c'est ça.
Tu peux y croire, tu peux t'entourer. En fait, il ne suffit jamais rien, il ne se passera jamais rien. Tu vois, il faut y aller. Et peut-être tu vas faire des conneries. Et bien en fait, tu analyseras, tu ajusteras. Tu vois, souvent, on me dit, mais quelle est l'expérience? C'est quoi l'expérience pour toi? Est-ce qu'un mec qui a 60 ans, il a forcément plus d'expérience qu'un mec qui a 20 ans? Moi, je te dis... Pour moi, non.
Ouais.
Maintenant, est-ce qu'il a vécu plus de choses? Oui. Mais en fait, vivre des choses ne suffit pas à avoir de l'expérience. Je vais te donner rapidement
vivre,
ma définition.
Ça veut tout dire et rien dire.
Exactement. Fait. Pour moi, l'expérience, c'est quoi? C'est s'exposer à des situations. Donc, en effet, vivre des choses. Ensuite, c'est analyser ces situations. Donc, prendre du recul, faire preuve de discernement, rechercher éventuellement des axes d'amélioration en disant ça, j'aurais pu faire mieux, machin, etc. Puis ensuite, des mesures correctives. Si j'aurais pu faire ça mieux, comment? Je mets ça en place. Et ensuite, et ça c'est le plus dur, la rigueur dans l'application de cette mesure corrective.
La discipline.
La discipline. Parce qu'on sait tous plein de choses sur tout. Moi, par exemple, je peux être un expert en nutrition. Ah, par contre, ce que j'ai mangé hier soir, c'était pas terrible. Tu vois ce que j'ai dit?
Oui, bien sûr.
Mais c'est OK. Voilà.
Mais c'est trop bien. En tout cas, voilà. Donc, pour les gens qui nous écoutent, on fait une synthèse. Parce qu'après, on va basculer tout doucement sur la fin. Mais j'ai envie de donner une synthèse. Donc, ta recette à toi, Samuel Schwartz, de l'audace, c'est premièrement y croire. Deuxièmement, l'entourage. Troisièmement, tu viens de dire...
Passer à l'action.
Passer à l'action. Voilà. Et quatrièmement, tu l'as sous-entendu, mais c'est la discipline, de répéter, de s'entraîner et de répéter les actions. Trop cool. C'est j'adore. Ça. On arrive tout doucement sur la fin de l'émission et j'ai une coutume, moi, dans cette émission.
Vas-y.
C'est de poser trois questions auxquelles tu vas devoir répondre hyper rapidement en mode punchy.
Okay.
Je sais que tu sais faire.
Bon,
alors, première question, quelle est ta citation préférée?
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
C'est qui?
Ah, je sais pas. En fait, je retiens pas. Je retiens jamais.
Non, mais je crois. Mais ouais. Mais en fait, je la connais. Je te dis ça.
Après,
mais
moi,
pas.
J'adore les citations. Non. J'adore. J'en ai des millions en tête. Mon cerveau fonctionne comme ça, sinon je comprends pas.
Ils ne savaient pas.
Mais je trouve que ça colle bien avec ton truc, tu vois. Cool. On l'a pas préparé en plus.
Ouais, non, pas du tout. Bah, sinon, t'aurais eu l'auteur.
Ouais, voilà, c'est clair.
Deuxième question. Ton passe-temps favori.
Au-delà de passer du temps avec ma fille, parce que je trouve que c'est ce qui est le plus beau, de voir les enfants grandir, j'adore le sport. Donc, tous les sports du monde, voilà, la muscu, le padel, le tennis, j'adore le sport.
Oh, cool. Troisième question, elle est plus philosophique, celle-là. Quand tu seras plus sur Terre, que veux-tu qu'on retienne de toi?
Ah, écoute, mon groupe s'appelle Empreinte, et c'est pas pour rien que je l'ai appelé Empreinte, c'est que j'ai envie de contribuer modestement, mais à écrire une partie de l'histoire ou à aider des gens et à se dire putain, ce gars-là, il avait fait ça, ça et ça. Et franchement, ça a quand même permis ça. Et ça, c'est chouette, tu vois.
Ok. Mais s'il y avait un truc, enfin, je te pousse un
laisser
peu.
Laisser son empreinte, contribuer.
Contribuer.
Ouais, contribuer.
Voilà. Okay.
Je dirais une contribution. Voilà. Bah, moi, les entrepreneurs, parce que forcément,
voilà,
les entrepreneurs,
non, mais c'est ça,
tu sais, c'est ce qui m'anime.
Ouais, bien sûr.
Aujourd'hui, j'ai créé le Club des Samouraïs. C'est un espace justement où on s'entraide entre entrepreneurs, on fait du business, on se forme, etc. Et donc forcément, bah, c'est ma mission de vie.
Trop cool, trop cool. Et justement, t'as un peu anticipé ma dernière question, mais c'est où est-ce qu'on peut te retrouver, Samuel?
Alors sur Instagram, on peut me retrouver Sam suffit pas, S-A-M-S-U-F-I-P-A. Toi-même, tu sais pourquoi. Sur LinkedIn, évidemment, Samuel Schwartz. Schwartz, c'est noir en allemand. Et puis après, pour ceux qui veulent aller plus loin, éventuellement rejoindre le groupe parce qu'ils sont entrepreneurs et qu'ils ont envie justement de se former, de trouver de l'entraide, de ne plus être seul et puis de générer éventuellement des opportunités business, le Club des Samouraïs sur School, S-K-O-O-L.
Je confirme, c'est vraiment top, top, top.
Ah bah oui, tu es un samouraï.
Je suis un samouraï.
Voilà.
Merci beaucoup Samuel.
Et merci à toi Dorian, c'était un bon moment.
C'était vraiment cool de te recevoir. Tu m'inspires beaucoup par ce que tu fais et par qui tu es.
Merci.
Merci à nos auditeurs, c'est un vrai kiff d'être ici pour vous partager ces messages d'audace et de résilience. Pour ma part, si vous voulez me suivre au quotidien, tout comme Samuel, je suis présent sur Instagram, sur LinkedIn principalement, Dorian Solaire, doriansolaire.co. Je partage tous les jours du contenu autour de ces belles thématiques que sont l'audace et la résilience. Et chose importante, j'ai également écrit un livre qui porte le même nom que cette émission, Osons les difficultés, et qui est disponible sur toutes les plateformes Amazon, Fnac, et que vous pouvez commander. Côté émission, on se retrouve le lundi 5 mai pour accueillir un kiné du sport et coach en préparation physique. Ça va être incroyable, on va aussi parler de ces sujets-là, audace et résilience, mais à travers le corps. Je vous redis à très vite et je vous souhaite une très belle journée.